Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Gisèle Cage.
Au sommaire de cette édition du journal, la MONUSCO se félicite du lancement de l'opération de transport de plusieurs centaines de soldats des FARDC et des policiers de la PNC, ainsi que quelques dépendants depuis ses installations à Goma vers Kinshasa. Ce dispositif est rendu possible grâce à son appui logistique et au rôle clé d'intermédiaire neutre assuré par le Comité international de la Croix-Rouge. Les détails dans ce journal. Appel à la paix, le président de la Guinée-Bissau, Omaro Sissoko Embalo, en visite à Kinshasa, exhorte la RDC et le Rwanda à mettre fin au conflit et rétablir la paix durable dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Réhabilitation des axes routiers dans la zone tampon du parc national de la Lomami. Entretien exclusif avec Radar Nishuli, directeur provincial de l'ICCN, sur les motivations et les enjeux de ces initiatives cruciales. Restez avec nous pour ne rien manquer. Direction Nord Kivu, le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, annonce le début ce mercredi 30 avril du transport de Goma à Kinshasa des centaines de personnes désarmées appartenant aux forces gouvernementales de la RDC. L'annonce a été faite ce mercredi matin à Goma lors d'un point de presse animé par Myriam Favier, chef de sous-délégation du CICR. On l'écoute dans cet extrait proposé par Chris Mukande.
Dans ce cas précis, le CICR a été approché par les différents acteurs, notamment le ministère congolais de la Défense nationale et des anciens combattants, la MONUSCO et l'Alliance du fleuve Congo, mouvement du M23, pour agir comme intermédiaire neutre. Le CICR ne fixe pas les termes de la négociation, mais offre ses bons offices pour faciliter la mise en œuvre de l'opération. Au terme de l'accord conclu avec le CICR, les acteurs concernés ont pris l'engagement d'assurer la sécurité des personnes faisant partie des convois et d'œuvrer pour la réussite de l'opération. Le CICR s'est aussi assuré que toutes les personnes ont consenti à être incluses dans ce transport. Le CICR en appelle, au vu de la complexité de cette opération et des risques qui y sont associés, au respect du droit international humanitaire et au sens de responsabilité de tous les acteurs.
À ce sujet, la MONUSCO se félicite du lancement de l'opération de transport de plusieurs centaines d'éléments non armés, membres de forces armées de la RDC, FARDC, de la police nationale congolaise, PNC, ainsi que de quelques dépendants depuis ses installations à Goma vers Kinshasa. Dans son communiqué de presse publié ce mardi, la mission de l'ONU indique que cette opération sensible intervient après plus de 3 mois de protection continue assurée par la MONUSCO, FARDC et à la PNC réfugiée dans ses bases depuis la prise de contrôle de Goma par le M23 fin janvier 2025. Grâce à Mouzati pour les détails.
Selon ce communiqué, conformément aux règles des Nations Unies, tous les individus sous protection de la MONUSCO avaient été désarmés. Malgré l'environnement extrêmement volatile et les pressions sécuritaires, la MONUSCO a réussi à garantir la sécurité, l'intégrité physique et le bien-être de ces personnes sur la durée, en conformité avec son mandat établi par les conseils de sécurité de l'ONU, souligne le communiqué. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général et chef par intérim de la MONUSCO, déclare, je le cite, « Le travail accompli par nos équipes sur le terrain pour protéger ces individus dans un contexte aussi tendu témoigne de l'engagement de la MONUSCO à remplir son mandat, même dans les circonstances les plus critiques. Nous remercions le CICR pour son rôle déterminant d'intermédiaire neutre et a permis de faciliter la mise en œuvre de cette opération complexe avec l'accord de tous les acteurs concernés. » Fin de citation. Le transport des membres des FARDC et de la PNC vers Kinshasa, où ils seront pris en charge par les autorités nationales, s'effectue avec leur consentement sous la protection des conventions de Genève. Bruno Lemarquis appelle ainsi l'ensemble des parties impliquées à respecter le droit international humanitaire et à tout mettre en œuvre pour garantir le succès de cette opération complexe.
L'actualité, c'est aussi cette visite officielle à Kinshasa pour une durée de 48 heures du président de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo. Il a exhorté le chef d'État de la RDC et du Rwanda à privilégier la voie de la paix. Arrivé à Kinshasa hier mardi, après un séjour de 3 jours à Kigali, le président Embalo a déclaré devant les médias que la RDC et le Rwanda, en tant que voisins et africains, ne doivent en aucun cas subir les affres de la guerre, comme c'est actuellement le cas dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. De son côté, Félix Tshisekedi réaffirme son engagement ferme à rétablir une paix véritable et définitive en RDC. Le point avec Billy Yvan Lutumba.
Reconnaissant qu'il n'a pas le rôle de médiateur dans le conflit, Oumaro Sissoko Embalo avoue cependant que la RDC, de par sa position stratégique en Afrique, constitue un levier de développement pour le continent. Une raison donc valable de militer pour la paix sur son territoire et tisser aussi avec elle des relations de coopération.
Le Congo a une expérience, surtout dans la matière minière. Donc, et la Guinée-Bissau aussi, on a quelques minéreries qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On veut gagner cette expérience. Nous sommes grands exportateurs de poissons et de l'agriculture aussi. Nous sommes dans cette dynamique.
Dans sa prise de parole, Félix Tshisekedi reconnaît l'implication de son hôte dans la quête de la paix entre le Rwanda et la RDC. Il tient en plus au respect des initiatives de paix entreprises par les partenaires de la RDC.
Je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Il faut qu'on se débarrasse de certaines tares en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. Plutôt que d'ériger des murs entre nous, jeter plutôt et construire des ponts pour relier les nations, parce que nous sommes tous liés par les mêmes défis. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois.
Signalons que de cet échange de mardi, la Guinée-Bissau et la RDC envisagent l'ouverture prochaine des représentations diplomatiques dans les deux pays.
Et puis, le ministre belge des Affaires étrangères poursuit son périple dans la zone. Maxime Prévot est arrivé hier mardi à Beni, le chef-lieu provisoire du Nord Kivu en provenance de Kinshasa. Il a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Évariste Somo. Les discussions entre les deux responsables ont porté sur des sujets essentiels tels que la sécurité, le développement ainsi que l'assistance humanitaire, sanitaire et alimentaire. Maxime Prévot s'exprime dans cet extrait sélectionné par Marc Marofimbo.
Je voulais à tout prix que, étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi, au vu de la portée symbolique forte que cela peut revêtir, être également présent à l'est du Congo, au plus proche, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui ne sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatique, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier l'aide notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire, qui est déjà procurée par la Belgique et ses ONG depuis de nombreuses années et qui va maintenant connaître une amplification. C'est la proposition en tout cas que nous faisons à Monsieur le Gouverneur et aux autorités civiles pour pouvoir permettre à notre agence Enabel, en partenariat aussi avec le Virunga, de pouvoir avoir un pôle de soutien plus fort.
En bref, depuis hier mardi, au Nord Kivu, un mouvement de retrait de troupes de la SADC, la SAMIDRC de la ville de Goma est observé. Ce retrait s'effectue par voie terrestre via la frontière dite grande barrière entre la RDC et le Rwanda, déployé au Nord Kivu depuis décembre 2023 pour soutenir les forces armées de la RDC dans la lutte contre les groupes armés dans l'est du pays. La SAMIDRC est restée bloquée à Goma après la chute de cette ville fin janvier 2025. Nous sommes le 30 avril, journée nationale de l'enseignement. Cette année, aucune grande célébration n'est prévue en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, notamment dans sa partie orientale et les zones sous occupation, sur instruction de la ministre d'État de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou. Cette décision a été communiquée officiellement par le secrétaire général de ce ministère la semaine dernière. Le point avec Benjamin Moudoumbi.
La célébration se fera sans pompe cette fois, compte tenu d'une part de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est. Situation qui fait qu'un nombre impressionnant d'élèves sont actuellement privés de leur droit à l'éducation. Toutefois, la ministre va adresser un message à la grande famille éducationnelle pour la circonstance en lieu et place de grandes démonstrations festives habituelles. Quant aux écoles, chacune selon le moyen disponible peut organiser les activités culturelles du moment de réflexion et de causerie. Tout cela en toute modestie et sobriété, ayant toujours une pensée particulière pour tous les élèves qui sont dans les zones de guerre et à qui le droit à l'éducation est en ces moments inaccessible. D'après ce même communiqué, cette approche cherche à souligner l'importance de l'éducation dans un contexte national marqué par des difficultés sécuritaires et humanitaires. En favorisant la réflexion et la sensibilisation, le ministre de l'Éducation nationale entend exprimer son soutien aux élèves et aux communautés affectées par le conflit, tout en continuant à faire de la célébration de l'enseignement un moment significatif à l'échelle nationale.
En Nord Kivu, la journée du 30 avril est marquée par la tristesse pour les enseignants vivant dans les zones occupées. C'est le constat d'un enseignant de Rutshuru qui a dû fuir son domicile en 2022 en raison de la guerre qui sévit en Nord Kivu. À ces jours, cet enseignant n'est jamais retourné chez lui et continue à errer entre diverses familles d'accueil. Comme beaucoup de ses collègues, il appelle le gouvernement à améliorer les conditions des enseignants. Suivez Sifa Maguru.
La situation est indescriptible, témoigne ce préfet des études dans la sous-division Rutshuru 5. La misère se lit sur le visage des familles des enseignants, témoigne-t-il. Alors que les enseignants déplacés vivaient grâce à peu d'assistance dans les camps de déplacés, aujourd'hui ces derniers se retrouvent carrément déshumanisés. Depuis l'occupation de la ville et le démantèlement des camps de déplacés, certains enseignants ont pu regagner leur village alors que d'autres, craignant encore pour leur sécurité, préfèrent rester et vivent dans la précarité totale, explique-t-il.
Depuis janvier jusqu'à présent, il est difficile de dire que nous vivons. C'est comme si on peut demander à quelqu'un qui passe dans la rue comment il vit. Comme les animaux vivent, c'est ça, c'est la vie que les enseignants mènent dans notre province. Il est difficile de nouer les débuts du mois, on vit de l'aumône, nous sommes déshumanisés. Pour le moment du 30 avril, le jour de l'enseignement, nous voudrions juste interpeller tout le monde qui intervient dans l'éducation de savoir qu'au Nord Kivu, l'enseignement est en péril.
Rappelons que la quasi-totalité des enseignants des territoires occupés du Nord Kivu n'ont pas encore reçu leur salaire depuis janvier 2025 à cause de l'indisponibilité des banques, ce qui les rend encore plus vulnérables parmi toute la population.
Et pour boucler ce chapitre à Kinshasa, le professeur Jean-Louis Essambo a réussi à redresser la faculté de droit de l'Université de Kinshasa au cours de ses deux mandats en tant que doyen. À l'issue de son mandat, les étudiants salue le niveau de la formation et l'ordre désormais établi au sein de cette faculté. Lors de son dernier conseil facultaire ce mardi, Jean-Louis Essambo s'est félicité de l'unité retrouvée entre le corps professoral et l'organisation des cours à la faculté de droit. Michel Kifindangoy.
Au cours du conseil facultaire, toute la communauté scientifique et académique de la faculté de droit a salué le leadership exemplaire de Jean-Louis Essambo à la tête de cette faculté. Motif de satisfaction pour les étudiants, comme le souligne ici Adolphe Ngoy, délégué facultaire.
Il a eu le mandat pendant une période très difficile, caractérisée par la COVID-19, par l'insuffisance des salles, mais il s'est évertué en homme de qualité. Nous voici aujourd'hui à la fin de ces deux mandats. Les étudiants sont à la page avec le calendrier académique.
Pour le doyen de la faculté de droit, la numérisation de cette faculté et le rétablissement de l'ordre dans l'octroi des diplômes restent le défi que devra relever son successeur, Jean-Louis Essambo.
Ce que j'ai pu laisser à cette faculté, c'est une faculté rénovée. Je crois que la faculté a connu une sorte de disparition des grilles de délibération. Je crois que c'est dans ce cadre-là que se trouvent certains candidats qui cherchent à avoir leur titre académique. Donc c'est un passé moins radieux que nous avons trouvé, qu'on n'a pas pu résorber en raison de l'absence de référentiels.
Notez que l'élection du nouveau doyen de la faculté de droit est prévue pour samedi prochain.
À Kinshasa, la destruction des constructions anarchiques se poursuit à la gare de Kintambo, un magasin dans la commune d'Ingaliema depuis samedi dernier. Maisons d'habitation, bars, boutiques et autres immeubles en cours de construction sont en pleine démolition dans le cadre d'un vaste projet de réaménagement initié par les autorités. Selon le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, cet espace appartenant à l'Office national de transport Onata est en cours de réhabilitation pour accueillir une gare ferroviaire ainsi qu'un arrêt pour voitures et motos. Ce projet vise également à désengorger les carrefours de Kintambo magasin. Vanessa Kongolo et Jonathan Fouanani se sont rendus sur place. Voici leur reportage.
Nous sommes à Kintambo magasin. Les immeubles construits sur les terrains de l'Onatra sont en pleine destruction. Les habitants en détresse récupèrent ce qu'ils peuvent. Félix Lusanga, l'une des victimes, ne sait à quel sens s'est vouée.
J'ai 8 enfants. Est-ce que je veux aller avec ces enfants-là ou...
Non loin de là, sur l'avenue Tabora, une autre victime dit avoir tout perdu.
Tel que je suis là, c'est que j'ai récupéré seulement cette chemise.
Pichu Mobaya affirme qu'il habite dans sa maison depuis 1984.
Nous n'avons reçu aucune information venant de la part de l'hôtel de ville, soit Onatra. Donc, bref, on n'a pas été notifié. La concession de l'Onatra commence à partir de la voisine limite-là. Nous, nous sommes des parcelles voisines à l'Onatra. Nous n'occupons aucunement la concession de l'Onatra.
Quelques passants curieux espèrent que ce projet initié par les autorités va aider à diminuer les embouteillages.
Félicitations, Tshisekedi. Ça a donc ce chemin de fer.
Félicitations, président Tshisekedi. S'il remet ce chemin de fer, ça nous fera du bien. Les embouteillages vont sûrement diminuer. Nous souhaitons qu'ils mettent même des hors-bords sur le fleuve. Comme ça, les uns seront sur la route principale, d'autres vont prendre le train et d'autres encore seront sur le fleuve. Et donc, que les autorités multiplient les moyens de transport.
Selon Léon Moulumba, ministre provincial de l'Environnement et de la ville de Kinshasa, ces démolitions seront menées aussi à la baie d'Engalim.
Actualité internationale.
En Ouganda, à un an de la présidentielle de 2026, le climat préélectoral s'étend. Le 26 avril, la police a encerclé le siège du principal parti d'opposition, la plateforme de l'unité nationale de Bobi Wine, empêchant la tenue d'une conférence de presse. L'UNUP voulait en effet lancer une campagne de vote de protestation, appelant notamment les jeunes à voter contre le gouvernement en vue des élections générales de l'an prochain et à défendre leurs droits démocratiques. Une activité qualifiée d'illégale par la police au nom de la sécurité publique. Enoch Barata, cadre du parti au pouvoir, le mouvement de la résistance nationale, NRM, soutient l'intervention des forces de l'ordre. Le NUP s'est habitué à provoquer des violences, à bloquer des routes et à semer le chaos parmi la population. Il faut à un moment faire la distinction entre les droits civiques, politiques et la pure criminalité. Des accusations rejetées par David Lewis Rubongoya, secrétaire général du NUP.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est Radar Birashirwa Nishuli, directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN avec le soutien financier de KFW, établissement de crédit pour la reconstruction, vient de réhabiliter plusieurs axes routiers dans la zone tampon du parc national de la Lomami. Ces travaux comprennent 56 km sur l'axe Ndingi Bafundo, 6 km sur l'axe Ndingi Chombikila et 6 km sur l'axe Ndingi Lukambo. Dans cet entretien exclusif avec Florence Kiza, Radar Nishuli nous dévoile les motivations derrière ces initiatives cruciales. Suivez.
Monsieur Radar Nishuli, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Monsieur Radar, c'est dans quel cadre que ICCN a tenu à réhabiliter ces 68 kilomètres dans la zone tampon du parc national de la Lomami?
Vous savez, la Lomami est la seule aire protégée de la RDC qui a été créée avec sa zone tampon. Cela veut dire que nous ne pouvons pas protéger seul ce parc sans la contribution de communautés qui vivent autour de cette aire protégée. Et quand nous avons fait des études socio-économique, on a trouvé que même si on a mené le développement dans ces zones-là, il est pratiquement difficile de parler de développement là où il n'y a pas de route. C'était des petits sentiers, même les vélos passaient difficilement. C'est comme ça que nous avons décidé avec les communautés d'ouvrir les 68 kilomètres. C'est pas tout, hein, mais c'est déjà un bon début. Puisqu'on se disait, les communautés veulent faire des activités de développement, des activités génératrices de revenus, mais même s'ils font l'agriculture, comment ils vont écouler leurs récoltes? C'est comme ça que on s'était mis ensemble, on a décidé de rouvrir les 68 kilomètres d'abord.
Pour ICSN, quel avantage ou importance de ces routes?
Pour l'ICSN, vous savez, c'est que nous protégeons pour la population, mais c'est la population pour laquelle nous protégeons qui vient détruire encore ce que nous protégeons pour elle. L'ICSN profitera de cette route pour contrôler le trafic. Deuxième chose, avec le gouvernement provincial, nous nous sommes dit que d'ici l'année prochaine, on va tester le premier tourisme au parc national de la Lomami. Et sans route, il n'y aura pas le tourisme. C'est-à-dire, du point de vue touristique, génération de revenus, nous avons besoin de ces routes.
En réhabilitant seulement 68 kilomètres, vous pensez vraiment améliorer la situation économique de cette population?
Ah, déjà, les déclarations de communautés qui ont reçu déjà cet appui, ils vous diront que nous sommes désenclavés. Puisque là où une moto prenait 6 heures, 8 heures, aujourd'hui la moto est en train de faire 3 allers-retours la journée. Et là où ils consommaient 3 litres d'essence, ils sont en train de consommer 1 litre. Il y a quand même quelque chose qui a augmenté. Je ne peux pas dire que nous avons résolu le problème, mais c'est déjà un bon début. Nous pouvons nous dire que c'est le début du commencement.
Oui, monsieur Radar, vous avez travaillé ICSN en partenariat avec KFW et WHH qui sont arrivés à faire un projet. Comment est-ce que vous allez continuer et quelle sera la prochaine étape?
Fin projet, c'est peut-être trop, puisque la KfW, qui est la banque financière de l'Allemagne, il continue à nous appuyer. Et avec le WHH, oui, le projet, dans sa phase de réhabilitation, a pris fin. Maintenant commence la phase d'utilisation de la route qui concerne maintenant le parc et les communautés, et le gouvernement, bien sûr. Donc, WHH a fini sa mission de rouvrir les routes, mais KfW reste avec nous dans le cadre des activités de développement et dans les activités de la protection du parc.
Quelle politique vous avez mise en place pour l'entretien de ces routes? Parce que la route sans entretien, ce n'est rien.
Une très belle question, hein. Je pense que vous avez suivi le gouverneur de province. Il a dit que cette semaine, il va signer un arrêté qui définit les modalités de fonctionnement des CLER, les comités locaux d'entretien routier. C'est une façon de responsabiliser les comités locaux pour qu'ils s'approprient l'entretien. Déjà, nous leur avons demandé d'ouvrir leur compte bancaire. On va y verser quelque chose. Les 3 mois qui suivent l'arrêt, qu'ils peuvent être en train de fonctionner en attendant que le gouvernement trouve des moyens plus conséquents pour les accompagner dans l'entretien de la route.
Qu'en est-il alors du tronçon Dingi-Kindu?
Tronçon Dingi-Kindu, le parc a une niveleuse et un bulldozer. Nous sommes prêts à mettre à la disposition du gouvernement provincial ces 2 machines pour aider à rouvrir aussi la route Kindu-Dingi. Sous une seule condition, le gouvernement paye du carburant, il paye le machiniste et nous, notre contribution comme parc, c'est disponibiliser les machines. Et le gouverneur a promis que d'ici entre mai et juillet, il va étudier cette opportunité-là et voilà.
Monsieur Radar Nishuli, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Radar Bira Chiroa Nishuli, directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, répondait aux questions de Florence Kizalunga. Nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.